Marco et Audrey. Gravel.
Boulevard 102.1.
Ouais, non, pas de Denis aujourd'hui. Denis qui a été frappé comme bien du monde par ce qui semble être une influenza. Fait que au repos, on espère le retrouver rapidement cette semaine. Mais effectivement, Audrey et Max qui se joignent à nous. On est avec vous autres jusqu'à 18h. Il y a quoi que ce soit sur les routes, quoi que ce soit dans l'actualité qui vous interpelle, vous n'hésitez jamais, textez-nous 418-971-1021, allez faire un tour sur nos médias sociaux. Peut-être jeter un œil à la circulation. En passant, la veille de Bourrasque est tombée. Fait que notre heure devrait être moins pénible que celle de ce matin, mais il y a quand même des petites choses à signaler, Audrey.
Oui, bien, plusieurs incidents, là, peut-être vous rappeler rapidement comme ça, sur la capitale, direction ouest, à la hauteur de la rue Seigneuriale, voie de gauche et la voie de droite qui sont bloquées. C'est un accident, là. Les services d'urgence qui sont arrivés sur place. Il y a également des problèmes si vous êtes sur la 40 ouest, à la hauteur, en fait, juste un peu avant le Gendre. La voie de gauche qui est bloquée, accident également. Si je regarde la carte, il y a des gros problèmes sur la capitale, direction est, surtout à la hauteur de Robert Bourassa. Direction ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Dû aux incidents sur Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale, super difficile de circuler. Il y a des problèmes évidemment aussi sur Duplessis, direction ouest. Ça se passe surtout entre Robert Bourassa et Duplessis. Et il y a des problèmes sur Henri IV Sud entre Charest et les ponts. La 20, direction ouest, ça se passe quand même bien pour l'instant. Là, c'est surtout à la hauteur de Taniata qu'il y a un certain ralentissement. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
On dirait qu'actuellement, absolument tout le monde est en mission à quelque part sur la planète. On a Justin Trudeau qui est du côté de Paris parce qu'il y a un sommet sur l'intelligence artificielle. Il y avait la fameuse mission des premiers ministres canadiens qui est toujours du côté de Washington aujourd'hui, alors qu'on semble mettre en opposition dans les médias les rencontres que François Legault va faire alors que Doug Ford va rencontrer d'autres personnes. Quelle est la bonne stratégie? Puis en général, l'émission se pose toujours la question, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se gèrent à cet endroit-là ou c'est cosmétique pour donner l'illusion aux électeurs que nos dirigeants font quelque chose. Mm-hmm. Toutes les questions qu'on a par rapport à tout ça puis par rapport à la situation actuelle, on va les poser à quelqu'un qui a connu la vie en dedans parce que oui, elle a œuvré entre autres comme chef de cabinet de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, mais actuellement, elle est conseillère chez Tact Conseil. On parle avec Sandra Aubé. Bonjour Sandra.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Est-ce que la perception que j'ai des missions, c'est quelque chose que tu as déjà entendu, qu'on a l'impression que, hey, on s'en va faire du PR, du social, des photo-ops, puis que dans le fond, ce n'est que ça, mais que c'est des équipes qui travaillent en dessous?
Oui, souvent, on a l'impression que les gens s'en vont partager un bon repas dispendieux, puis qu'ils vont aller prendre du café, puis se promener dans la rue en pointant du doigt d'un regard inspiré pour ramener ça chez eux, puis montrer qu'ils ont été à quelque part. C'est beaucoup plus complexe, en fait. Je pense qu'il y a probablement un peu des deux. Quand on va en mission, des fois, comme je pense que définitivement, les gouvernements, présentement, veulent montrer qu'ils sont activés. Donc, d'aller sur le terrain, d'avoir ces photos-là, ces images-là, oui, ça renvoie l'image à la population, que les gens sont activés, mais honnêtement, on prend pas l'avion pour aller à Washington juste pour le plaisir. On organise des rencontres. On va parler soit des acteurs, par exemple, québécois, canadiens, qui vont être sur le terrain, qui sont affectés. On va rencontrer des chambres de commerce. On va parler, on va avec nos diplomates. On essaie de rencontrer des gens qui sont là-bas. Ce qu'on sait, ce qui semble fonctionner du côté de Washington, du côté américain, présentement, c'est de parler aux acteurs économiques mm-hmm. qui, eux, auraient l'oreille du président. Donc, c'est ça, essentiellement, qu'on comprend. Je pense qu'il n'y a aucun programme qui est parfait. Puis de voir différentes stratégies, c'est tout à fait normal, là.
Est-ce que ça peut vraiment faire une différence, ces missions-là? T'sais, dans le cas de Trump en ce moment, là, est-ce que de traverser l'autre côté puis d'aller rencontrer ces gens-là, ça peut vraiment nous apporter quelque chose?
Bien, de voir comme un premier ministre ou l'autre, est-ce que ça change vraiment quelque chose? On pourrait dire pas nécessairement, mais la réponse, c'est oui. Si on n'est pas engagé, si on n'est pas là, on laisse complètement le champ libre. Donc, ce que les premiers ministres vont faire, ils donnent une impulsion. Ils amènent des gens d'affaires avec eux. Ça, c'est très important. Et ils sont sur le terrain, puis ils s'en vont rencontrer des gens qui, eux, ensuite, peuvent partager le message. Donc, non, M. Legault, non, M. Ford, ne sont pas aujourd'hui en train de rencontrer le président Trump. Par contre, ils sont en train de continuer de donner une voix aux entreprises d'ici, puis aux entreprises qui ont des emplois ici, qu'elle soit américaine ou autre, et sur lesquelles les tarifs ont un impact. Donc, vraiment, comme...
Oh, on a un petit problème technique, ça a gelé. Ah, désolée, ça a gelé un petit peu.
Je m'excuse, je t'ai inspirée en plus.
Ben oui, j'ai vu ça, mais c'est totalement inspirant. Puis d'ailleurs, dans ces rencontres-là, est-ce que de rencontrer des lobbyistes, c'est quelque chose qui est plus payant que de rencontrer directement des politiciens, justement parce qu'ils ont les deux mains là-dedans?
Bien, c'est pas nécessairement de rencontrer des lobbyistes comme des gens de firmes de lobby, quoi, qu'il y a des gens qui sont très influents, mais c'est important quand on s'en va sur le terrain, puis c'est la même chose dans toute stratégie, c'est de comprendre c'est qui le public qui est influent auprès des personnes qu'on cherche à influencer. Puis présentement, l'administration de M. Trump, elle est encore en train de se placer, c'est pas tout le monde qui a été nommé officiellement.
On cherchait encore avec qui il était avant de prendre Air Force One pour aller au Super Bowl, puis de parler des fameux tarifs d'acier puis d'aluminium, là.
Ouais, peut-être qu'il a juste vu des photos, qu'il s'est rappelé une couple d'articles de la semaine dernière, il n'a pas aimé ça, puis il a décidé d'aller chercher un maximum d'effets à heure de grande écoute. C'est quand même un fin stratège, ce M. Trump-là. Mais c'est des choses qui sont quand même... quand même super importantes, là.
Est-ce qu'on est en mode rattrapage à ce moment-ci avec toutes ces missions-là? Mmh. On se doutait qu'il y avait une possibilité que Trump reprenne le pouvoir. Des tarifs, on en avait déjà eu. Je comprends que ce qu'il a mis en place depuis qu'il a été assermenté le 20 janvier dernier, ça n'avait pas nécessairement été adressé. Mais est-ce qu'on est en mode rattrapage sur le terrain là-bas?
C'est une excellente question. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont et peut-être que la vigueur avec laquelle M. Trump est entré en fonction avait été sous-estimée. M. Trump a été très clair sur ses intentions quand on regarde sa plateforme, quand on regarde les entrevues qu'il a données avant, après son élection. Et d'ailleurs, comme je pense qu'on peut aller chercher, avoir une idée de ses prochains gestes qu'il pourrait poser par rapport à l'ALENA ou par rapport à différents secteurs. Tu sais, je pense à la gestion de l'offre quand il dit que le Canada n'est pas très gentil avec leur secteur agroalimentaire. Comme moi, je prends toujours des notes parce qu'il finit toujours par suivre avec ses actions. Donc, je pense que le travail qui se fait là est extrêmement important. Mais M. Trump est un politicien. Il a une base politique qui est extrêmement mobilisée et il est en train de livrer sur des promesses qu'il a faites. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bouger. Et donc, ça aurait été difficile pour lui de ne pas aller livrer là-dessus. Puis, je parle comme stratège politique. Oh, oui. C'est quelque chose que j'en mange pour déjeuner, dîner, souper. Là, comme, il y a des promesses, puis il remplit ses promesses. Puis, c'est désagréable, puis c'est douloureux pour nous, puis comme peut-être qu'on peut questionner la façon dont il le fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à bouger, puis présentement, sont en train d'essayer, comme on est tous en train d'essayer de faire bouger cette aiguille-là au compteur pour qu'on ne soit pas affecté de la manière dont on anticipe qu'on peut l'être. C'est tout à fait injustifié, puis ça, je pense que c'est quelque chose pour les auditeurs que je veux toujours rappeler quand je parle aux gens. Ce qui se passe présentement, là, il n'y a aucun entrepreneur ici qui a mérité ça. Il n'y a personne qui a mérité ce qui se passe. On l'a entendu de certains acteurs du gouvernement, mais à garder en tête, c'est des idéologies. C'est un politicien qui avait un programme électoral. Il le met en place, puis on paie pour ça. Est-ce qu'on aurait pu être mieux préparé? On peut toujours être mieux préparé et on aurait pu être davantage en offensive, c'est clair.
Là, on a senti une espèce de vague. On se tient d'un océan à l'autre. Tout le monde essaie de ramer dans le même sens. Par contre, on se rend compte très rapidement que les enjeux ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre. On a vu Mme Smith du côté de l'Alberta aller faire sa propre représentation. On le voit qu'avec les alumineries, c'est le Québec qui particulièrement va être impacté. Doug Ford a son propre agenda. Il est aussi en campagne électorale de son côté. Quand ils partent tous en mission pour Washington comme ça, est-ce que c'est chapeauté par le fédéral? Est-ce que c'est chacun pour soi ou vraiment, on s'arrange pour être cohérent?
Ben là, c'est fait un peu sous le chapeau du Conseil de la Fédération, donc qui était présidé au cours de la dernière année par Doug Ford, qui en a bien bénéficié aussi, qui a profité de ce leadership-là pour consolider son rôle un peu de capitaine Canada, alors que du côté d'Ottawa, c'était un peu la débandade. Alors, il y a une certaine coordination, c'est clair. Puis évidemment, toutes les provinces ont des enjeux qui sont prioritaires et on n'est pas tout le temps sur les mêmes enjeux, c'est normal. Et ça fait aussi qu'on va pas voir toutes les mêmes personnes, mais on y va quand même en portant je crois, un message cohérent qui est coordonné à travers le conseil, qui n'est pas un conseil fédéral, c'est vraiment comme les provinces ensemble. Puis je pense que c'est important aussi de parler du contexte, j'ai parlé du contexte politique à Ottawa, tu sais, on le sait, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, ça a été compliqué à l'automne, ils ont été, c'est comme il y avait, ils s'enfargeaient dans les fils du tapis au Parlement, comme il n'y a rien qui avançait. Puis là, le premier ministre a fini par partir. Là, on est en course à la chefferie chez les libéraux. Le Parlement siège pas, c'est suspendu. Comme c'est pas facile. On sent que le gouvernement s'est organisé. Comme il y a vraiment une poussée. T'sais, on disait bon, Monsieur Trudeau était à Paris pour parler d'intelligence artificielle, mais honnêtement, quand tu as tout le leadership mondial qui se retrouve pour un sommet, on ne fait pas que parler de l'intelligence artificielle. Il y a des conférences, il y a des rencontres qui se déroulent toujours derrière des portes closes où les leaders vont aller parler des enjeux. Et souvent, on va voir des rencontres, par exemple, de leaders du G7 qui vont se retrouver au G7-1 ou les partenaires européens plus Canada, où on va avoir des affinités et on va venir parler de différents enjeux, notamment le commerce international, les tarifs, comment est-ce qu'on peut pivoter, comment est-ce qu'on peut forger des nouvelles alliances. Donc, il y a vraiment comme cette voie-là qui est portée, mais c'est sûr que ce qui s'est passé à Ottawa, pour moi, a eu un effet, ça a ralenti la machine avant qu'on réussisse un peu à reprendre la vitesse. Je pense que ça fonctionne, mais le changement à venir de leadership au niveau du premier ministre du Canada, ça a, à mon avis, absolument un effet sur la relation Canada-États-Unis.
En situation de crise comme ça, Sandra, est-ce que les missions de tous les paliers politiques se valent?
Ou est-ce qu'une mission fédérale va avoir plus
Plus
de poids qu'une
d'impact
province?
ou...
Nous autres, on a le maire de Québec qui devait aller en mission au Texas. Notre réaction à tout le monde, ça a été oui, mais pas sûr que dans le moment, ça va avoir
Ça
l'impact
changera rien,
souhaité,
là.
là, ouais.
Ben, je suis pas d'accord.
Ah ouais!
Oui, je pense que ce soit que on peut parler des paliers de gouvernement. Moi, je vais beaucoup parler de l'importance de comme des missions comme économiques, commerciales, des entrepreneurs. Comme si on s'en va dans un, par exemple, si on a des usines qui sont, disons, on est un entrepreneur manufacturier, secteur manufacturier québécois, on a des usines dans des États qui sont républicains, qui risquent d'être affectés, la chaîne d'approvisionnement risque d'être affectée, comme ça coûterait plus cher, on va avoir la difficulté à aller chercher les matériaux qu'on échangeait entre le Canada et les États-Unis, puis là, ben, ça va coûter plus cher, on sera plus capable d'en vendre autant, on va devoir mettre à pied des gens. Ça, c'est le genre de choses qui parlent. Fait qu'on soit un propriétaire d'entreprise ou un vice-président, qu'on soit le maire de Québec où il pourrait avoir un effet comme s'il y a des liens entre les régions, qu'on soit, c'est ça, qu'on soit le gouvernement fédéral, qu'on soit Québec, comme on a tous un rôle à jouer là-dedans. Si on a des leviers, je pense que notre devoir, c'est de les activer présentement.
Quel doit être le rôle d'un parti d'opposition fédérale présentement? Parce que, tu sais, pendant la pandémie, par exemple, de COVID, au début, on savait tout pas trop qu'est-ce qui se passait, puis on se disait, OK, ben là, faut quand même, faut être gentil, puis laisser le temps à personne, c'est quoi faire. Là, il y en a qui ont un petit peu cette vision-là présentement, alors qu'il y en a d'autres qui disent, non, non, là, c'est pas un jeu qu'il faut être
On n'a pas
gentil.
passé sur pause. Là, ouais.
Exactement, là. Les conservateurs, par exemple, peuvent être difficiles, puis peuvent y aller de leurs idées, puis est-ce que c'est ça leur rôle présentement ou au contraire qu'ils devraient être un peu conciliants?
Je pense que c'est pas une question d'être nécessairement comme gentil ou conciliant. C'est une question présentement de, pour moi, c'est sécurité économique, sécurité nationale, notre autonomie, notre avenir économique, l'avenir pour nos enfants, le mode de vie qu'on connaît. Donc, c'est d'avoir une mobilisation. Puis, je peux comprendre que politiquement, présentement, tu sais, on le sait qu'il va y avoir une élection. On en a une au plus tard en octobre prochain,
Oui.
peut-être plus tôt, peut-être à ce moment-là, on le sait pas. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas comme en 2018 quand il y a eu des tarifs sur l'acier et l'aluminium où là, on avait vraiment vu équipe Canada réunie, conservateurs, libéraux, tout le monde ensemble. On avançait. C'est sûr qu'il y a ces tensions-là. Je dirais que c'est dommage, puis en même temps, je peux pas, comme je prenais au rôle de stratège, je peux pas dire que je ne comprends pas pourquoi. Comme oui, on souhaiterait que ce soit le cas. Est-ce que là, j'ai pas de la visibilité sur tout ça, mais est-ce que, tu sais, derrière des portes closes, justement, on souhaiterait pas que, par exemple, on sait que des conservateurs ont probablement des liens privilégiés avec certains membres, M. Vance, notamment dans l'administration de M. Trump.
C'est ce qui avait été mentionné à la sermentation. On disait que, parce qu'à ce
Oui.
moment-là, on n'était pas dans la même période d'incertitude. Oui, il y avait déjà Justin Trudeau qui avait annoncé ses intentions, mais on n'avait pas encore eu toutes les menaces, entre guillemets, qui étaient allées à l'exécution. Puis on disait, ah, mais les conservateurs, ils ont des oreilles auprès des républicains, ils ont des oreilles proches. Ça pourrait favoriser un gouvernement conservateur. Puis on l'a vu, Trump, la fois où il s'est fait questionner sur Poiliev. Ça, puis il y a eu un bruit d'une mouche qui le dérangeait, ça revenait à peu près au même, là.
Oui, effectivement, il y a de la place pour tous les joueurs présentement pour prendre de l'espace, mais ça sert à rien. C'est sûr que comme tout est de la faute de Trudeau, comme à un moment donné, comme oui mais non là, comme je pense que ce que les citoyens, en tout cas ce que moi je souhaite voir, c'est que tous les candidats, toutes les personnes intéressées par le poste de premier ministre se positionnent comme un futur premier ministre, puis montrent du leadership. Puis on a commencé à voir des partis pivoter, on les a vus ressortir. Donc ça, c'est intéressant, mais honnêtement, si les gens ont des contacts, s'ils ont des liens privilégiés, je souhaite qu'ils les mobilisent. Puis honnêtement, si c'est pour leur gain politique, ben comme tant mieux pour eux. Si ça peut aider l'économie, puis de faire comme nous, on a ces liens privilégiés-là, on a été les voir, puis ils nous ont dit qu'on allait pouvoir bouger si on fait X, Y, Z. Il y a tout le temps moyen de, dans cette espèce de game politique, d'aller chercher, d'aller bien paraître. Mais je pense que peut-être présentement, cette volonté-là de faire paraître comme les autres partis pour moins bon vient peut-être aussi brouiller les cartes. Puis j'espère qu'on puisse en sortir. Puis voir du beau leadership de tous côtés, là, ce serait fantastique.
Quel leadership va être pris le plus au sérieux? Est-ce que dès qu'on va avoir un nouveau chef au Parti libéral du Canada, cette personne-là, par défaut, va devenir premier ou première ministre? Dans ce cas-ci, ça semble s'aligner sur Carney. Ou est-ce que ça va être plus simple du moment où on va être allé en élection et que ce soit la population canadienne qui se soit prononcée sur une nouvelle personne à la tête du pays?
Je pense qu'en matière de relations Canada-États-Unis, ça va être plus simple quand on aura eu une élection. Monsieur Trump est quelqu'un qui reconnaît le pouvoir, avoir les coups des franches. Et tant qu'on est dans cette espèce de boîte de flou, politique là, collective, de flou, de gadou politique. Là, on est en hiver avec ça va demeurer un défi parce que les autorités américaines vont pas perdre de temps à engager avec quelqu'un qui sera peut-être pas là. Donc, ils vont regarder les chiffres, ils vont regarder comme tout ça, qu'est-ce qui se passe, ils vont faire, OK, est-ce qu'il y a du mérite à engager avec un ou une chef libérale qui sera peut-être là pour 2 mois, 3 mois, ou est-ce qu'on va juste attendre, puis pendant ce temps-là, honnêtement, comme ils vont s'amuser. Fait que ça, c'est un défi. Il faudra voir qui sera la personne choisie et quelle sera la stratégie qui sera mise en place. Ça, j'ai pas de visibilité.
Là, on parle beaucoup de Trump puis de ce qui se passe actuellement, mais en général, à quel point la diplomatie est importante dans le milieu politique? T'sais, j'ai le sentiment que comme citoyen, on critique souvent l'hypocrisie de nos politiciens. Ils n'ont pas le choix d'entretenir des belles relations, mais on joue quand même toujours les gentils, j'ai l'impression, devant les gens qu'on critique quand même ouvertement. Fait que je me demande à quel point cette diplomatie-là rend service des fois aux politiciens.
Ou pas. Tu sais, ce qui se passe souvent, il y a la joute devant les caméras, c'est vrai. Puis, il y a les relations que les parlementaires vont développer derrière les caméras, souvent. Et c'est-à-dire que souvent, les politiciens, peu importe le parti, d'où ils viennent, vont être capables de trouver un terrain d'entente et de faire avancer des projets. C'est ce qui fait d'ailleurs que même si, par exemple, un député local est d'un parti d'opposition, ben ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va bouger dans sa circonscription pour les 4 prochaines années. Si on est capable de développer une bonne entente, tout ça, on est capable de faire bouger les dossiers. Donc ça, c'est vrai au niveau local, puis c'est vrai au niveau plus élevé. Donc, on est capable d'avoir ça. Mais je peux comprendre qu'il y a un certain cynisme par rapport à une espèce de politique de tu vu, puis d'aller juste encore faire des photo-op, alors que concrètement, dans mon compte de banque à la fin du mois ou sur la table quand je vais à l'épicerie, moi, j'en ai pas plus pour mon change. Comme si le coût de la vie demeure extrêmement élevé, les changements sont pas là, puis on continue à avoir plein de menaces. On a l'impression que ça se multiplie, puis qu'on reconnaît plus le monde dans lequel on est. Fait que je comprends absolument qu'on puisse avoir ça. Puis c'est c'est à nos leaders, je dirais, c'est nos leaders, mais comme les gens qui sont dans des positions de pouvoir, un moment d'être. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de. Les gens sont beaucoup comme en position de receveur plutôt qu'être en mode offensif. Tu sais, à un moment donné, comme il faut communiquer, il y a beaucoup de choses qui se font, puis les gens sont brillants. On est capable d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se fait, puis il faut prendre le temps parce qu'après ça, ça crée ces déconnexions-là, puis ça crée des pertes de confiance dans le système. Puis à ce moment-là, ben on a des gros problèmes.
Sandra Aubé est conseillère chez Tact Conseil. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
J'ai l'impression qu'on a une vision différente de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Puis, c'est drôle, hein? J'ai l'impression qu'on ne sera pas à une mission diplomatique ou économique près au courant des quatre prochaines années de règne de Trump.
Merci. On va aller voir se multiplier, c'est clair.
Bon, peut-être à une prochaine fois pour s'en rejaser. Merci énormément.
Merci, au revoir.
Donc, Sandra Aubé, qui était avec nous autres, elle a travaillé, entre autres, comme chef de cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Mais elle est tout à fait au fait de ce qui se passe quand on a besoin d'aller sur le terrain, quand on a besoin d'aller jaser avec d'autres interlocuteurs, que ce soit des politiciens, que ce soit justement des gens qui ont l'oreille actuellement de Trump et de son entourage. Puis son entourage semble peser très, très lourd dans les décisions.
Ça donne une vision différente parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, là, au lieu d'essayer de voyager puis d'essayer d'aller parler puis de jouer au petit chien de poche, là, pourquoi vous ne prenez pas des décisions?
T'sais? Oui, mais d'un autre côté, actuellement, tu ne peux pas faire ça parce qu'il y aura toujours une contre-réaction. Fait qu'en ce moment,
surtout
c'est d'aller
avec
chercher,
Donald Trump,
c'est d'aller chercher le plus grand nombre d'alliés possible. Puis on aura l'opportunité là, de s'en reparler dans les prochaines minutes quand on ira en nouvelles. Si vous avez manqué l'entrevue au complet, elle va être disponible sur le blvd.fm. Pendant ce temps-là, nous, on s'en va en musique. Falling in Reverse sont là, All My Life, avec le gars qui est absolument partout, Jelly Roll. Yeah, I've been...